fort et reclus.
Fort et reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord Noir et sur le www.perilieu103.org sur Internet et aussi sur l'audioblog où les émissions sont donc archivées. Donc c'est audioblog.arteradio.com/fort et reclus à l'Elysée et le tout étant attaché en minuscule et sans accent. Donc nous sommes le jeudi 3 juin, cette émission est donc en direct. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la Grèce générale. Mais d'abord on va prendre un petit tour quand même de grec pour pouvoir suivre cette émission d'une heure.
La chérisma hellénica via Archarius. Le grec accéléré pour débutants. Μάθημα πρώτο. Leçon 1. Η κοινωνική εξέγερση. L'insurrection sociale. Μέρος α. Λεξιλόγιο. Section A. Vocabulaire. Ένας μπάτσος. Un flic. Ένας μπάτσος. Μπάτσος. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Μπάτσος. Πληθυντικός αριθμός, pluriel. Η μπάτση. Le flic. Μπάτση. Ένα γουρούνι. Un cochon. Ένα γουρούνι. Γουρούνι. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Γουρούνι. Πληθυντικός αριθμός, pluriel, τα γουρούνια. Les cochons. Γουρούνια. Ένας δολοφόνος. Un assassin. Ένας δολοφόνος. Δολοφόνος. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Δολοφόνος. Πληθυντικός αριθμός, pluriel, οι δολοφόνοι. Les assassins. Δολοφόνοι. Μέρος Β. Η φράση της ημέρας. Section B. La phrase du jour. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Φλικ, κοσόν, ασασάν. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. 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 Μπάτσι, γουρούνια.
Nous allons parler un peu de la Grèce, de ce qui se passe en ce moment. Et voilà.
Oui, donc on va faire un petit rappel de ce qui se passe depuis un an et demi déjà. On peut remonter à décembre 2008. Donc début décembre 2008, ça se passe dans le quartier contestataire d'Exarchia à Athènes. Et il y a un adolescent de 15 ans qui se fait abattre par un policier. Donc c'est Alexis Grigoropoulos. Donc suite à ça, il y a des journées, il y a des semaines d'émeutes comme la France en a connu en décembre 2005. Donc dans ce mouvement-là, les anarchistes, le mouvement anti-autoritaire, ils sont très visibles. Donc ça permet au pouvoir de brandir la figure d'ennemi intérieur. Donc c'est la fameuse image des encagoulés, quoi. Ce qu'il y a, bon, c'est des nuits d'émeute, des journées d'émeute, des affrontements dans la rue avec la police. Donc ça, c'est pour le côté un peu contestataire. Il y a aussi un côté constructif.
Sur l'auto-organisation, tout ça, non ?
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent, qui se construisent à la base. Donc des occupations de bâtiments, des squats qui sont transformés en centres sociaux. Il y a même des occupations de l'espace public, de la ville, quoi. Des parkings en pleine ville qui sont investis par les habitants et reconvertis en jardin collectif. Il y a des comités de quartier qui se mettent en place. Donc des débuts de contre-pouvoir au niveau des quartiers, quoi. Donc en décembre dernier, c'était l'anniversaire de l'assassinat d'Alexis. Il y a eu à nouveau plusieurs journées d'émeutes. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'entre-temps, le gouvernement du pays, il était passé à gauche. Donc ça a entraîné un perfectionnement de la répression, on pourrait dire. Surtout dans un pays comme la Grèce, où il y a le souvenir du fascisme qui est encore très présent. Donc il y a eu le régime des colonels qui n'est pas si ancien que ça, quoi. Donc à propos de cette répression, on peut donner un texte à aller lire qui s'appelle « Une pincée de sucre et tout s'adoucit ». Donc il est trouvable sur Internet, on peut aller voir ça, c'est très intéressant.
Puis il y a la soi-disant faillite aussi en Grèce.
Voilà, donc ça c'est le moment où on est actuellement, quoi, depuis ces derniers mois. Donc la Grèce, elle est en faillite, comme le sont de toute façon tous les États, quoi. Donc ça commence par la Grèce, c'est son tour. Donc le FMI, il impose des mesures de rigueur, on a suivi ça dans l'actualité assez récemment. Dans la logique capitaliste, c'est les salariés qui doivent payer la crise. Donc depuis le début de l'année, on compte déjà 4 journées de grève générale. Et on peut parier que même si la dernière journée, début mai, elle a été marquée par la mort de 3 employés dans une banque incendiée par... peut-être par des manifestants, peut-être par des provocateurs, on ne sait pas. L'agitation, elle peut faire que se poursuivre, quoi. Donc on écoute Missirlou, un vieillard grec, et on en reparle tout de suite après.
Yeah.
Les voyages de Prométhée à propos de la guerre sociale en Grèce et la fin d'un ici et d'un là-bas.
Le miroir de la paix sociale commence à se fissurer. La date limite de conservation de l'État-providence à l'européenne semble dépassée et l'une après l'autre, les classes politiques nationales en prennent acte. Tandis que dans certains pays, les bases juridiques pour ce tournant ont déjà été posées dans les parlements dans une relative tranquillité, les hostilités en Grèce ont pris une ampleur inattendue. Même si cette conflictualité pourrait être placée dans la continuité de mouvements sociaux contre le démantèlement de l'État social auquel nous sommes habitués, elle tend à prendre un caractère considérablement différent. Un accord dans l'État, avec l'État dans la logique de l'ancien pacte social, paraît de plus en plus improbable, car il n'existe plus les bases économiques, politiques et sociales pour cela. Nous sommes donc face à une nouvelle donne. Habitués à mener des luttes visant à briser la pacification sociale et le consensus autour, nous pourrions être rapidement confrontés avec une nouvelle forme de gestion qui tend plutôt à instaurer un climat de guerre. C'est pourquoi il est d'autant plus nécessaire de développer des nouvelles perspectives, de nous risquer à formuler quelques nouvelles hypothèses pour la guerre sociale.
D'autres horizons. Au péril de trop schématiser la réalité, mais dans le but d'esquisser quelques pistes analytiques permettant d'inciser plus précisément dans cette réalité, on pourrait dire que depuis la fin des années 70, une restructuration profonde de l'économie, mais pas seulement, a commencé. Une partie considérable du complexe industriel en Europe a été démantelée et décentralisée avec la transformation du procès de fabrication et les délocalisations. Les rapports de classe qui allaient de pair en ont été sérieusement bouleversés et éclatés. Selon sa logique de pénétration toujours plus profonde de la marchandise dans tous les aspects de la vie, le capital a continué à explorer de nouveaux marchés, notamment liés aux nouvelles technologies, et fortement connotés par l'aspect de service.
Les restructurations advenues au sortir de la Seconde Guerre mondiale ou après les phases de dictature ont joué pendant des années sur un État social capable d'accompagner cette refondation du capitalisme et d'en gérer les tensions. Cependant, depuis les années 80, les dits acquis sociaux ont été largement attaqués et au cours des années 90, leur déconstruction et leur morcellement se sont accélérés à un rythme déterminé par le contexte international et les rapports de force locaux. La flexibilisation du marché du travail, le démantèlement de la protection sociale comme du système des retraites, la libéralisation puis la privatisation du secteur comme l'énergie, les communications et les transports, ont signifié autant de remises en cause de ce que beaucoup considéraient comme des certitudes.
La crise financière de l'année passée n'est pas en fait une crise, mais une conséquence de ces nouvelles restructurations. Au-delà des sommes énormes provisoirement dégagées par nombre d'États pour le sauvetage de quelques banques, ce sont surtout les ventes d'établissements et d'industries publiques qui se sont poursuivies. Pour autant, les États restent en déficit colossal et ont déjà épuisé quelques-unes des recettes susceptibles de renflouer leur caisse. Ils doivent donc continuer à tailler dans le vif. La situation actuelle en Grèce nous donne un avant-goût de ce qui nous attend dans d'autres pays.
Les plans d'austérité qui se mettent d'ores et déjà en place en Angleterre, comme en Espagne, en Italie, en Grèce ou dans bien d'autres pays européens, vont diamétralement à l'encontre de ce qui a été pendant des décennies l'un des paradigmes de l'État social, l'augmentation de la consommation sur le marché intérieur. D'un côté, l'État grec réduit l'accès à la consommation avec les réductions de salaires et des retraites, et de l'autre, il augmente drastiquement les impôts directs ou indirects pour récupérer encore de l'argent. L'objectif affiché n'est plus l'inclusion des pauvres, Il est assumé que toute une part de la population exposée à la misère doit se soumettre à une exploitation renforcée et s'en estimer heureuse. Depuis des années, cette direction a aussi été prise dans la politique d'immigration européenne. Face à une immigration toujours croissante, la prétendue Europe forteresse gère les flux humains, toujours à coup de régularisation et de renforcement de la capacité d'expulsion. Mais en lien étroit avec des contrats de travail de plus en plus précaires, l'existence d'une sous-couche de la population est donc clairement acceptée et appréciée selon les besoins du marché.
Certains conflits de ces dernières années, Argentine en 2001 ou Bangladesh notamment en 2006, ont déjà donné des signes d'une exacerbation de la guerre économique. Ce qui se passe actuellement en Grèce vient le confirmer en Europe. Quoique des temps toujours plus sombres s'annoncent, certainement vu la faiblesse actuelle de la critique sociale et révolutionnaire, nous avons l'intuition que pour nous aussi des temps nouveaux pourraient s'annoncer, des temps qui ouvrent des possibilités perdues de vue, et pas suivant des raisonnements « pire c'est mieux ». Il est vrai que la surprise est un sentiment plutôt agréable, mais nous devrions tout mettre en œuvre pour ne pas vivre les défis actuels en commentateurs impuissants, noyé dans la passivité que la domination essaye de nous faire avaler. Pays de Prométhée.
Il faut revenir assez loin dans l'histoire pour retrouver un moment et un espace où le mouvement révolutionnaire, de plus en grande partie anti-autoritaire, a été capable d'approcher les développements et la lutte sociale, comme c'est le cas aujourd'hui en Grèce. C'est le résultat provisoire d'années de pollinisation croisée entre le mouvement anarchiste grec dans toute sa diversité et une certaine combativité sociale. Les anarchistes grecs se sont retrouvés souvent côte à côte avec des opprimés qui se soulevaient, tout en étant capables de mener des luttes quand tout le monde regardait de l'autre côté. De cela, nos ennemis en sont conscients, au moins tout autant que nous. Non seulement la Grèce a été le premier pays de la zone euro à devoir prendre des mesures drastiques contre les exploités, non seulement elle a été et reste une base d'opérations militantes, notamment vers les pays des Balkans, en même temps qu'une porte de l'Europe pour l'immigration venant de l'Est. Mais c'est aussi un pays confronté à des tensions sociales importantes et une activité révolutionnaire acharnée.
Maintenant que la gauche institutionnelle est au pouvoir en Grèce, elle peut difficilement jouer de la même manière son rôle de récupérateur et de frein de la lutte sociale. Cette carte, elle l'a déjà jouée lors de son élection sur un programme progressiste, entre guillemets, suite à l'explosion de la révolte en décembre 2008. La marge de la classe politique grecque s'est donc considérablement réduite. Et en cas d'extension et de durcissement du conflit, deux voies historiquement classiques s'offrent. Soit la droite dure, répondant aux exigences du capital national et international et s'appuyant sur un patriotisme latent, réussit à rétablir l'ordre à l'aide d'un gouvernement technique et d'une poigne de fer, soit surgit à l'horizon la possibilité d'une insurrection. Il y a beaucoup en jeu.
Pendant quasi toute l'année 2009, la Grèce a été secouée par une longue série de grèves, de blocages, de manifestations et d'attaques contre les structures du pouvoir. Confrontée à une hausse de la spéculation sur la dette de l'État, notons que la majeure partie de la dette grecque est dans les mains des banques grecques. Et à l'explosion du déficit budgétaire, début 2010, le gouvernement socialiste est passé en cinquième vitesse, provoquant également une accélération des mouvements de protestation. Il n'est pas exagéré de parler d'un climat de guerre, tant au niveau économique qu'au niveau social et politique. De début 2009 jusqu'à maintenant, le gouvernement a tranché à la hache dans les salaires et les terrains et les retraites, avec des réductions allant de 10 à 30%, a augmenté les impôts directs et indirects, a restructuré l'enseignement et quasi aboli la santé publique. Pour pouvoir maintenir les structures de l'État, la classe politique grecque et l'élite économique doivent rapidement transformer la Grèce en paradis de l'exploitation. Un fer de lance dans la zone euro, l'État grec déclare ouvertement la guerre aux classes d'en bas et sa préoccupation pour le peuple prend clairement la forme du patriotisme et d'une mise en spectacle d'un terrorisme révolutionnaire qui menace la société.
La situation est plutôt critique pour les institutions existantes en Grèce. Et il y a longtemps qu'un État européen n'avait senti de nouveau dans son cou l'haleine chaude d'une possible insurrection. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Malgré des échauffourées significatives mais circonscrites, lors de la manifestation du 5 mai à Athènes, le leader du syndicat GSEE n'a pu dire deux mots avant d'être chassé par des centaines de manifestants. Une grande partie des protestations respecte les consignes des syndicats sociaux-démocrates. Le parti stalinien KKE et quelques structures de gauche comme le PAM, notamment parce que ceux-ci se trouvent encore à la base de quelques initiatives formelles comme les grèves générales. Malgré de nombreuses expériences pratiques d'auto-organisation dans la rue, lors des manifestations, des occupations et des émeutes, les protestations négligent encore la confirmation nécessaire de leur autonomie. Combinée à une répression policière plutôt brutale et une terreur médiatique, le danger existe de se laisser entraîner dans une guerre d'usure. Sans vouloir prétendre que la grève générale illimitée, contrairement aux journées d'action de 24 heures, serait le présage d'un moment insurrectionnel, il est sans doute nécessaire de paralyser l'activité économique et la circulation de marchandises. Pour cela, il faudrait pousser vers une décentralisation des initiatives ou, en d'autres termes, vers une auto-organisation assumée de la lutte. Pour arracher l'initiative aux syndicats et créer un espace qui résiste au rappel à l'ordre et soit fertile pour les grains de l'auto-organisation. Une des possibilités semble être d'œuvrer de manière décentralisée et diffuse à la paralysie de l'infrastructure économique, communication, énergie, transport. Cette question ne concerne pas que la minorité révolutionnaire, comme certains pourraient croire. C'est au contraire une proposition pratique qui s'adresse à tout le monde, qui se nourrit de beaucoup d'expériences et dans laquelle la créativité et la diffusion l'emportent sur toute conception économiste ou militariste.
L'insurrection n'est pas l'œuvre de révolutionnaires et d'anarchistes seuls. Elle est sociale, non seulement dans le sens où elle implique une partie considérable des exploités, mais surtout parce qu'elle bouleverse les rôles sociaux existants en détruisant les structures qui les soutiennent. Tout comme elle ne tue pas, elle ne tire pas sur des exploités pour mettre fin à l'exploitation, mais sur les structures et les hommes qui rendent l'exploitation possible. Elle ne peut pas se laisser coincer dans une apologie du peuple ou des exploités dont la résignation, voire le consentement, sont, au bout du compte, les forces qui font tourner la machine.
L'hypothèse insurrectionnelle qui semble se dessiner actuellement en Grèce suit en fait une toute autre logique que le paradigme de la guérilla urbaine. L'État a tout intérêt, lors des moments de hausse de la conflictualité sociale, à pouvoir présenter le conflit comme un combat singulier, comme un duel entre deux factions. Dans ce cas-ci, l'État contre les adeptes de la guérilla urbaine, avec la population en spectateur passif. Bien sûr, il est tout à fait capable d'utiliser le mouvement anarchiste dans son ensemble à cette fin, et de le faire avaler dans un grand spectacle. Mais il ne semble pas très malin de lui faciliter la tâche en appliquant nous-mêmes, plus ou moins explicitement, des hiérarchies aux différentes formes d'attaque contre les structures de l'État et du capital. L'insurrection n'a pas besoin d'avant-garde ou de protecteur. Elle ne demande rien d'autre que, ennemi de tous les fétichismes, la détermination de souffler la subversion à travers la société. Déjà maintenant, même si l'insurrection n'est encore qu'hypothétique, la question des armes doit être posée dans la perspective d'armer tout le monde, de la généralisation de l'offensive en armes, pas en refoulant le fait armé vers tel ou tel groupe, acronyme ou faction.
Dagret commence à insister sur une rapide militarisation du conflit et il espère que les anarchistes en prennent l'initiative. L'État intensifie ainsi la répression spécifique et la terreur contre le mouvement anarchiste. Il a posé qu'il continuera à y avoir des morts, qu'il continuera désormais sous les yeux de tout le monde, qu'il n'hésitera pas à pousser toujours plus la militarisation, par exemple d'un quartier comme Exarchia, qu'il utilisera ouvertement des escadrons para-étatiques et fascistes. L'État ne vise pas seulement à isoler les anarchistes de la lutte sociale, à briser leur dynamique, mais aussi à les entraîner dans une spirale où règne la loi du taillon, avec des représailles certainement justes et courageuses de la part des anarchistes, mais dont le prix pourrait être le recul de la subversion dans d'amples stades de la société. L'État utilise sciemment les médias dans une optique purement contre-insurrectionnelle, en tentant de diffuser la terreur, de terroriser la population avec le spectre des ordres d'immigrés déferlant sur la Grèce, des terroristes anarchistes, des braqueurs sanguinaires. L'État ne se maintient plus en achetant la paix sociale et la réconciliation, mais en déclarant toujours plus ouvertement la guerre à tous ceux qui luttent. Il n'est pas facile de ne pas tomber dans le piège, de ne pas se trouver pris dans les filets d'un conflit militaire qui serait sans doute le fossoyeur de n'importe quel projet de subversion. Comprenons-nous bien, car la situation actuelle demande de se parler clair. Ceci n'est pas un plaidoyer pour baisser les armes, pas un discours qui pose que la violence insurrectionnelle fait peur aux prolétaires et qu'il faut donc la limiter. Au contraire, c'est justement le moment pour chacun, chacune, d'œuvrer à se fournir les armes qu'il ou elle veut utiliser, de partager possible la nécessité de l'attaque avec tous ceux qui refusent de s'incliner devant les autels de la nation et de l'autonomie, de donner à l'attaque la place qu'elle devrait toujours occuper, un geste de destruction consciente d'une structure ennemie et non un moyen de véhiculer de l'autopromotion. La subversion recule quand les compagnons ne parlent qu'après avoir tiré une balle. d'initiés d'un là-bas.
Maintenant qu'en Grèce, des possibilités longtemps mises au placard tentent d'envahir l'existant avec toute leur violence, des questions s'imposent aux compagnons hors de Grèce, des questions qui ne tolèrent pas de remise. Non seulement parce que ce qui se joue en Grèce aura probablement un impact sur tous les anarchistes et révolutionnaires en Europe et ailleurs, mais surtout parce que la possibilité d'une contamination devient chaque jour plus imaginable. Nous ne voulons pas ressusciter une espèce de théorie domino, mais il nous semble clair qu'au vu de l'imbrication toujours plus étroite et profonde des structures économiques et étatiques sur le vieux continent, le projet de l'Union européenne étant une de ces structures formelles, ce serait s'aveugler que d'intégrer les frontières des territoires où nous habitons, des États nationaux où nous menons nos luttes, comme des horizons infranchissables. La vieille question de l'internationalisme semble aujourd'hui posée et exige de nouvelles réponses.
Ce sont en grande partie les mêmes questions qui sont venues frapper aux portes des compagnons en décembre 2008. Seulement, les enjeux sont aujourd'hui encore plus exigeants. Quoique voyager en Grèce vaille certainement la peine pour échanger et partager des expériences, nous préférons nous demander comment nous pouvons aller plus loin dans nos contextes qu'exprimer une solidarité internationale. Comment faire pour que nos activités aillent au-delà d'une tape encourageante et généreuse dans le dos de nos compagnons grecs qui ont aujourd'hui tellement à perdre, mais surtout à gagner.
Considérons que, vu l'extension de la guerre sociale en Grèce, toutes les luttes et gestes de révolte prendront un poids plus lourd. Pas parce qu'ils exerceraient d'une manière ou d'une autre une pression directe sur les institutions grecques, mais justement parce qu'ils peuvent être les porteurs redoutés d'une contamination. En partie objectivement et en partie en s'y efforçant, il est possible d'enchevêtrer les différentes luttes locales avec la guerre sociale en Grèce et vice-versa, parce que c'est la conséquence logique d'un lien social, une similarité de la situation grecque qui, comme nous le suggère notre intuition, pourrait se passer dès demain dans nos contrées. Même si on peut constater que les forces subversives sont beaucoup plus faibles dans beaucoup de pays qu'en Grèce et qu'elles doivent faire face à un certain consensus autour de la réaction, comme par exemple en Italie, où le racisme et la gestion politique prennent des allures totalitaires au travers de l'affreux consentement de larges couches de la population. S'impose alors la nécessité d'aller plus loin que la solidarité et de réellement tisser des liens entre les différentes luttes. Chaque combat qui est actuellement mené pourrait avoir une signification qui le dépasse, et il nous faut œuvrer dur dans ce sens. La logique d'un ici et d'un là-bas pourrait enfin prendre fin, aussi dans nos perspectives.
Quoique la restructuration économique en cours semble vouloir faire d'une instabilité généralisée son champ d'accumulation, une autre instabilité est possible, qui ne profite pas à la domination. Il nous faut y réfléchir, sérieusement réfléchir. Serait-il impossible d'arriver à quelques analyses et hypothèses qui lieraient le contexte local avec ce qui touchera probablement toute la zone euro et ainsi de développer une capacité pour évaluer les luttes actuellement en cours en fonction de leurs effets possiblement déstabilisants? Ce défi nous semble en tout cas valoir la peine d'être relevé, de se renforcer là où un combat gagné dans cette guerre sociale délayée pourrait dépasser son premier résultat concret, comme d'essayer de concevoir nos activités à la lumière de leur report aux activités à quelques centaines de kilomètres de distance. Tenter d'aller sur ces chemins pourrait nous aider à développer des hypothèses insurrectionnelles, à éviter d'être trop pris par surprise, à découvrir des possibilités de pousser le mécontentement et les rages présentes vers des perspectives émancipatrices en direction d'une guerre sociale contre toute forme d'exploitation et d'autorité. le rêve?
Une hypothèse insurrectionnelle n'a pas seulement besoin d'analyse et d'activité. Elle reste lettre morte ou un coup dans l'eau si elle ne sait pas communiquer son pourquoi. En ces temps, elle ne peut plus s'appuyer sur seule énonciation de quelques concepts qui restent vagues, même quand ils sont discutés, comme celui de libération. Les concepts rendus communicables à travers la lutte sociale n'existent plus. Nous devons oser nous poser la question de comment faire revivre un rêve, pas comme un mirage, pas comme un mythe, mais comme des intentions vivantes. La contribution révolutionnaire à la lutte sociale ne devrait pas se limiter à des suggestions destructives à inciter à la révolte. Son caractère insurrectionnel devient plus tangible quand elle réussit non seulement à identifier l'ennemi et à mettre en œuvre une négativité qui donne certainement du courage à tous les enragés et à tous ceux qui voudraient briser les chaînes de la résignation, mais quand elle est aussi capable de garder vivant, de communiquer pourquoi elle lutte. En ce sens, deux décennies d'idéologisation des idées révolutionnaires ont causé beaucoup de dégâts. Nous sommes orphelins d'idées qui semblent avoir perdu leur pensabilité. Nous devons forcer un passage pour sortir du coin dans lequel nous avons été acculés et arrêter d'en faire l'apologie pathétique. La conflictualité qui monte pourrait prendre un caractère assez différent de ce que nous avons connu jusqu'alors. Elle nous offre de vraies possibilités d'expérimenter et de rompre l'encerclement idéologique. La contradiction de la subversion se cache dans la tension entre approcher la réalité et sortir de la danse, communiquer ce qui est considéré comme impossible.
Plutôt qu'une esquisse exacte de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ces mots se veulent une invitation, on pourrait dire un appel à ouvrir nos têtes et à regarder droit dans les yeux les défis qui se posent. Beaucoup pourraient se jouer, et la seule certitude que nous avons, c'est que dans les temps qui viennent, l'inertie aura des conséquences plus lourdes encore.
Je dormais profondément. J'ai fait un cauchemar. J'ai vu la tête de Jean-Pierre qui me parlait et qui me disait: lève-toi, c'est l'heure du journal. Nos parents manifestaient dans la rue pour abolir l'esclavage et libérer les corps enchaînés aux cadences infernales. Aujourd'hui, bande de petits connards, vous hurlez au travail, comme d'autres prêts à avouer sous la torture n'importe quel crime fictif. Les vitrines appellent au viol. Il est naturel de les briser. Merde de merde de merde de merde. Vous allez les brûler, vos putains de facs, vos ordures d'usine. Cette cinquième république bâtie sur les cendres d'un fascisme qui ne demande qu'à convulser de nouveau.
Vous allez tout foutre en l'air, bordel de merde. Vous continuez vos revendications comme si c'était des coupures pub entre les télé et novellas. Au lieu de rêver que l'on vous donne 5 minutes à la télé ou sur une scène slam pour exister.
Vous allez enfin prendre le poste à pleine main pour le rentrer sur la tête de l'élu de votre mairie. Ça va arriver quand? Est-ce que ça va arriver un jour? Combien de nuits de cristal allez-vous encore supporter? Est-ce que vous allez vous réunir encore longtemps?
L'air de rue, c'est un brasier. Incinération immédiate de tous les députés de l'Assemblée nationale. Et que leurs âmes se lèvent pour ne plus jamais retomber avec les cendres de ces ordures. Nous ferons pousser de quoi nourrir nos petits.
Rétablissons la peine de mort pour ceux qui gagnent plus de 5000 euros par mois. Dressons un banquet, ouvrons le couvert pour dévorer ceux qui s'engraissent. Plantons nos fourchettes et nos certitudes entre les deux yeux de ceux qui n'ont jamais eu de désir et d'érection que pour le pouvoir. Redevenons chevaux. Essayez donc de nous dompter.
Bande d'enculés.
Bande d'enculés. C'est l'heure du journal.
Des voix, je trouve. Vous...
Noël hardcore pour le petit Nicolas. Option A. Nicolas s'est chopé des champignons en allant au pizza. Option B. Nicolas s'est enfilé deux panachés dans la soirée. On a vomi la moitié sur sa femme et l'autre moitié dans lui. Option C. Nicolas fait partie d'une longue liste de collabos uniquement inscrits sous son nom de famille d'origine d'immigrés hongrois. Il en a chié pour traverser la montagne. Option D, En attendant le résultat de sa prise de vue en bas de chez lui, quelle ne fut pas la surprise du petit Nicolas de découvrir ses quatre portraits affublés d'une perruque blonde, la même que celle de Paris Hilton, et d'un rouge à lèvres de mauvaise qualité fabriqué avec de la graisse d'ours des Balkans. Pour couronner le tout, obstruant ce visage à angle droit et à la peau grasse, était grossièrement taguée la phrase suivante.
C'est pas de ma faute, il m'a forcé à avaler. C'est un garçon, nous l'appellerons Rémi.
Si c'est une fille, nous vous la vendrons.
Moralité, il ne faut pas planter des cailloux dans la campagne. Ça pousse comme le chien dent. Post-scriptum de la première moralité, la carte des lecteurs est un carton merveilleux pour se fabriquer des pailles que l'on plantera dans l'œil de son voisin ou dans son nez, suivant que l'on soit de bonne ou de mauvaise humeur.
Allez, bonne nuit les petits. Demain, c'est grasse matinée pour tout le monde.
Forêt reclue à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord-Noir et www.périgueux103.org. Oui, je vais y arriver. C'est ça. Donc, on va parler d'un livre qu'il faut absolument vous procurer, qui a été écrit par Fabrice Wolf. Et donc, tu vas nous en parler un peu, Romain.
Oui, donc dans le prolongement du texte qui a été lu juste avant, là. Donc, le livre, c'est « Qu'est-ce que la démocratie directe ? Manifeste pour une comédie historique », donc de Fabrice Wolf aux éditions Antisociales. Donc, c'est un petit bouquin qui n'est pas très long. Il fait combien de pages ? Il fait 138 pages. C'est un peu le format folio, quoi.
Format de poche, un peu.
Donc c'est un bouquin qui va chercher dans l'histoire, dans des travaux historiques récents, un exemple bien réel de démocratie directe. Donc c'est l'exemple d'Athènes dans l'Antiquité. Et donc il se propose de résumer ce qu'on peut savoir de cette société démocratique, quoi.
Donc il se base sur les travaux d'un Danois, c'est ça, Mogens Hansen, qui a écrit La démocratie athénienne chez Démosthène.
La démocratie athénienne à l'époque des Démosthènes.
À l'époque, pardon.
Donc il y a une traduction française qu'on peut trouver chez Texto. Donc on peut parler du le bouquin, il se propose de contribuer à l'agitation pratique qu'on peut mener actuellement, quoi, à la lumière de ces aperçus historiques. Donc la grosse partie du bouquin, c'est ces trois chapitres qui viennent détailler les institutions démocratiques d'Athènes, comment ça fonctionnait, les règles de fonctionnement. Et ce qui est intéressant chez Fabrice Wolf, c'est que avec ces données-là, en fait, il a une réflexion actuelle et très concrète sur la volonté démocratique qu'on pourrait avoir au quotidien, aujourd'hui, ici et maintenant, voilà, et partout, quoi.
Par rapport à la démocratie bourgeoise.
Donc, pour parler un peu de ce qu'il y a dans le prologue du livre, ça resitue un peu notre état actuel. Donc, il y a eu la chute du mur de Berlin. En gros, pour schématiser, quoi, il y a en 1989. À partir de là, on parle de mondialisation, on parle de la démocratie qui s'imposerait sur toute la planète, quoi. Mais concrètement, ce qu'on voit, c'est plutôt que ce que les populations partout sur la planète voient, c'est plutôt que c'est plutôt un État ou une société policière au service de la bourgeoisie qui s'impose partout, quoi. Avec, par exemple, la lutte contre le terrorisme qui est proclamée à échelle nationale et internationale, devant laquelle l'état de droit il s'efface et toutes les libertés disparaissent. Donc, le mot démocratie, il pose bien un problème quand on voit les choses froidement comme ça, actuellement, quoi. Donc, la démarche de Fabrice Wolf, c'est d'aller voir dans l'histoire et d'aller rechercher cette trace d'une vraie démocratie, d'une véritable démocratie, d'une démocratie directe. Donc ça se passe à Athènes, le siècle de Périclès. Si on a des vagues souvenirs d'école, voilà, peut-être que ça parle à certains. Donc ça a duré deux siècles, en fait, ce régime-là, bien particulier. Donc c'est le 5e et le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Et Fabrice Wolff, il conclut son prologue comme ça. Tous ceux qui se disent ou se pensent aujourd'hui partisans de la démocratie directe seraient bien avisés de s'intéresser à ce seul exemple documenté d'un tel régime durablement établi, à sa genèse et à son évolution. Car il suffit à prouver que leur utopie n'est pas qu'une vue de l'esprit.
Donc ça, c'est à offrir à tous ceux qui disent, mais c'est de l'utopie d'être dans une vraie démocratie, puisque la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, je crois, en plus. Donc, voilà.
Pour dire une autre citation, en fait, non, l'intérêt du... Pour parler un peu de l'intérêt du bouquin, c'est qu'on voit, en allant dans le détail du fonctionnement de la démocratie à Athènes, en fait, on voit comment la démocratie qu'on vit, qu'on est censé vivre aujourd'hui, elle est à des années-lumière de la vraie démocratie, quoi. Donc on en donnera des exemples tout à l'heure, mais on va écouter un petit rappel historique de la Révolution française, la Commune de Paris, etc.
J'ai soupé leur politique, les politiciens nous font une république. Bon à foutre aux chiens, peuple ne soit donc plus si flemme. Au lieu d'être vautard, faut faire tes affaires toi-même. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Pendant que ton patron se gave, toi t'as le ventre creux, tu restes toujours son esclave. Il t'appelle gueux, à turbine et tu te desquinces. T'es toujours des chars, le piche se fout de tes plaintes. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Le comte de l'ironie, quand tu crèves de faim, c'est d'entendre la bourgeoisie t'appeler souverain. Celui qui veut ton suffrage, prend pour un jobard, fous-lui ton poing sur le visage. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Le député que tu nommes pour te faire des lois serait-il le meilleur des hommes? Il n'en vaut pas trois, nuit et jour il fait ripaille et se fait du lard. On voit faire toute cette bataille. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Sans contre-maître sera plus salaud. Un soldat parlant grand maître, quand il est cabot à l'usine ou à la caserne, devient plus rossard du moment que l'on gouverne. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Voter c'est se donner un maître pour le décorum, qui bientôt deviendra traître dans l'aquarium. Gouvernant patron jésuite, tout ça sent le mouchard, faut leur foutre la dynamite. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Faut leur foutre la dynamite, te dit le père peinard.
Oui, donc pour amener quelques petits éléments comme ça, mais en... Sans être systématique, mais c'est des petites choses comme ça qu'on peut noter, quoi. Donc on va le gros du bouquin, c'est trois chapitres principaux qui décrivent les institutions d'Athènes. Donc un premier sur l'assemblée souveraine qui parle de la fédération des petites assemblées souveraines et de comment ça s'articule avec une assemblée générale unique de la société athénienne. Il y a aussi on balaye pas tout, mais il y a quelque part aussi l'idée de transparence, de publicité des débats et des lois qui sont discutées et qui sont proclamées.
Puis elles peuvent être écrites aussi, même écrites dans la.
Voilà, donc il y a quelque chose
aussi.
Il y a quelque chose de qui montre la radicalité de la démocratie telle qu'elle était conçue à ce moment-là. C'est une loi de 337 avant Jésus-Christ, qui méritait, selon les citoyens qui l'avaient discuté et voté, d'être gravé dans la pierre, qui n'était pas simplement archivé, mais qui était exposé comme ça publiquement dans la ville, quoi. Donc sur une des stèles érigées sur l'Agora, qui est la place centrale de la vie démocratique à Athènes. Donc c'est cette loi qui prévoyait des récompenses et des honneurs pour quiconque attenterait à la vie d'un éventuel tyran. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui...
Ah, c'est bien ça.
Qui nous montrent la distance avec l'aujourd'hui, quoi. La deuxième chapitre du livre, c'est les lois de la délégation. Donc après l'assemblée souveraine, il y a le processus de délégation. Donc on voit que le principe de rotation des tâches est primordial. On dit même quelque part que sur l'ensemble de la population des hommes adultes, on a pu calculer que 1 sur 4 dans sa vie a été président d'Athènes, quoi.
Mais pas plus de 24 heures.
Mais pas plus de 24 heures. Personne n'a pu se dire président d'Athènes plus de 24 heures, quoi. Donc ça montre comment la démocratie était vécue par chacun et par tout le monde, quoi.
Et comme ça tournait et tout ça.
Donc il y a aussi l'idée le principe du tirage au sort plutôt que de l'élection, puisqu'il fallait des volontaires pour s'occuper des affaires publiques, et donc le plus simple, c'est le tirage au sort, quoi. Et troisième chapitre du livre, litige, contrôle et révocation, sur la justice, et comment la justice qui pourrait être vue actuellement comme une institution un peu liberticide et tout, oui. Il peut y avoir un principe libertaire dans la justice, quoi.
Wow.
Donc voilà, on vous reporte
au livre.
On vous invite à vous procurer ce livre. Fabrice Wolff, Qu'est-ce que la démocratie directe, aux éditions Antisociales.
Forêt reclue à dans le 15 jours, au revoir à toutes et à tous.
Τι διάβασα προχθές τις μικρές αγγελίες. Έχουν ανοίξει λέει λάκους και μας περιμένουνε. Τι λέτε ρε μαλάκες ρε, τι λέτε ρε. Θα περιπλανηθούμε σαν τον πόλεμο χάρη τον τρίτο. Ανάμεσα από τους πύργους των πολυεθνικών, ανάμεσα από τα κρυστάλλινα κτίρια των διαφημιστικών και των ασφαλιστικών. Θα τους τραβήξουμε, θα τους βγάλουμε μέσα από τα γραφεία τους και θα τους πούμε αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα για τις μαλακίες σας, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες, αρκετά. Έτσι. Να τους τραβήξουμε, να τους βγάλουμε μέσα από τα meeting και να τους δείξουμε πόσο υπέροχα καίγονται τα πολυτελέστατα αυτοκίνητα τους τα οδοφράγματα και να τους πούμε αρκετά ρε μαλάκες με την κόνομα και τις μαλακίες σας, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες με την κόνομα, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες, αρκετά. Arquetá, 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 arquet σαν φιλιά